Musique, cinéma, politique, social, environnement, santé, culture, sport. Tous les jours à 12h15 et 19h15, Je vous dis pas, votre magazine d'information locale.
Je suis au Grand Phare en compagnie de Pauline Geoffry, guide à la mairie du lieu. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Ça fait longtemps que tu proposes cette visite en tant que guide à la mairie du lieu ?
Alors, moi, j'ai commencé à travailler en 2003 à la mairie de l'Île-Dieu, quand j'étais étudiante. Mais je faisais que le château au début et j'ai dû commencer à travailler au phare. Je crois que c'est en 2008 ou en 2011, je ne sais plus.
Alors, dans quel contexte a eu lieu la construction du phare en 1829, Pauline ?
Alors, en 1829, on est à une période où, en France, on a énormément de phares qui vont se construire pour essayer d'obtenir ce qu'ils ont appelé à l'époque la ceinture lumineuse, c'est-à-dire qu'en circulant avec un bateau, on ne puisse pas circuler dans un endroit où il n'y ait pas de phare pour aider les bateaux à se repérer. Et ça, c'est le contexte national, on va dire. Mais vraiment, à l'Île-Dieu, ça faisait des années, depuis la fin du 18e, qu'on réclamait un phare. Et il n'y avait toujours rien qui avait été fait. Et finalement, il y a un bateau de la Marine nationale, l'Active, la Marine royale à l'époque, pour être d'ailleurs plus précise. Donc ce bateau, l'Active, c'était une gabarre, donc transport de troupes et surtout de marchandises de l'armée, qui s'est échoué sur le récif de Basse-Flore, à côté des Chiens Perrins, et il s'est perdu corps et biens. Et c'est vraiment à cause de ce naufrage-là, qui n'est qu'un des nombreux naufrages qui ont eu lieu sur la pointe du But, que les autorités ont dit « bon ben voilà, cette fois-ci on va construire un phare ». Et il a été construit au lieu dit La Petite Foule, c'est-à-dire au même endroit, à peu près, à quelques mètres près que le phare actuel.
Pourquoi le lieu-dit de la Petite Foule ?
Alors ici, c'était une petite colline, donc un peu en hauteur par rapport à la mer, pour gagner en hauteur, pour augmenter la portée et la visibilité du phare. Et c'était un site mégalithique qui a été détruit sans doute à cette époque-là pour pouvoir installer le phare et les bâtiments attenants.
Si j'ai bien tout compris, au début, le phare n'était pas assez visible.
Alors, je ne crois pas que c'était tellement ça le problème, mais au départ, à l'époque où il a été construit, il n'y avait pas d'électricité, donc c'était une lampe à huile, si je ne me trompe pas, avec des lentilles de Fresnel déjà à l'époque. Et le phare était plus petit que le phare actuel, il faisait une trentaine de mètres. Et ils ont modernisé ce phare-là à la fin du 19e siècle. Il me semble directement en installant des lampes électriques, il devait y avoir un groupe électrogène. Afin d'augmenter la portée du phare. Et puis ils avaient ces moyens techniques à leur disposition. Mais si le phare n'existe plus aujourd'hui, c'est parce que les Allemands l'ont détruit. S'ils ne l'avaient pas détruit, on n'aurait pas de nouveau phare. Ça m'étonnerait très fortement.
Le phare a été détruit par les Allemands en 1944, en août exactement, et a été reconstruit en 1951, mais plus haut, 41 mètres au lieu de 29 mètres. Quel est le but précis de cette différence d'hauteur ?
Eh bien, c'est ce que je disais pour répondre à la question précédente. Finalement, le premier phare avait été fait donc voilà, une trentaine de mètres de haut. La colline sur laquelle il est construit fait 15 mètres, donc du coup, il était à 45 mètres au-dessus du niveau de la mer et ce n'était pas assez. À partir du moment où les Allemands avaient cassé le premier phare, on était libre d'en refaire un et de le faire comme on voulait, de la taille qu'on voulait. Donc ils ne s'en sont pas privés, ils en ont fait un plus grand. En plus, dans les années 50, fin 40, début 50, on avait le béton à disposition qui n'existait pas au 19e. Donc c'était quand même pas les mêmes coûts et les mêmes chantiers. Ça a permis de faire un phare plus grand, j'allais dire à moindre coût finalement, pour une meilleure efficacité, puisque le but, c'est pas d'avoir un phare qui est le plus chouette de la France, mais c'est un phare qui va remplir son rôle de guide pour les marins, et il sert à indiquer l'estuaire de la Loire, qui est loin. Donc il faut qu'il soit grand, c'est important.
Et ce phare est visible jusqu'à combien de milles ?
Alors, on le voit jusqu'à 28 000 nautiques. 1 mille, ça vaut 1 km 852 mètres. Donc, ça veut dire qu'il a une portée supérieure à 50 km. Et c'est pas par hasard, parce qu'on est à peu près à 50 km, un peu plus, au sud de l'estuaire de la Loire. Et c'est le grand phare qui indique le sud de l'estuaire pour les bateaux.
Combien de marches faut-il monter pour arriver au sommet ?
Presque 200. Il y en a 198, il y en a deux devant le phare et il y en a 196 dedans.
Et en haut du phare, que peut-on voir ?
On voit presque toute l'île. On ne voit pas tout à fait toute l'île, puisque la pointe des Corbeaux, au sud-est, elle est trop basse par rapport au grand phare. Vous voyez, il y a les collines vers Saint-Sauveur et vers le sémaphore qui nous cachent la vue. Mais sinon, on voit donc au sud-est le sémaphore, l'église de Saint-Sauveur. Après, si on remonte vers le nord, il y a Port-Joinville. On voit l'usine, la conserverie avec sa cheminée. On voit l'église, on voit le château d'eau. Et puis après, on voit la côte Nord-Rois, mais enfin, on voit vraiment les récifs de la côte Nord-Rois. La pointe du But, évidemment, avec la balise cardinale sur les Champérins et la corne de brume. On voit la côte Sud-Ouest avec la pointe du Châtelet. On voit un petit peu le vieux château, mais il est un peu caché derrière des arbres. Et puis après, on voit pas la Meule, parce que comme c'est dans un petit creux, bah, on voit pas tout.
On voit forcément des communes du continent.
Alors, quand on a de la chance, quand la visibilité est belle, on voit très très bien le Pays de Mont. On voit le pont, il y a des gens, on le voit vraiment vraiment très bien, on peut compter les arches du pont. Il y a des jours où c'est un peu plus brumeux, hein, comme aujourd'hui. Et on voit Notre-Dame avec le grand château d'eau, le culmineau là, qui nous envoie notre eau. On voit Saint-Jean. On voit la corniche vendéenne, et quand il fait vraiment très beau mais que ça annonce de la pluie pour les jours suivants, on voit les sables. Et on voit souvent Noirmoutier, et quand vraiment la vue est dégagée, on voit même l'île du Pilier.
Pauline, quelles questions reviennent le plus souvent durant tes visites ?
On ne parle pas que des phares durant les visites, donc du coup j'ai souvent des questions qui concernent la vue plus qu'autre chose. On me demande souvent combien vous êtes à l'île-Dieu habité toute l'année. On est 4700 et quelques. Et est-ce qu'il y a de l'eau à l'île-Dieu ? Quand je parle du château d'eau, et j'explique oui, mais plus assez pour la vie moderne, d'où le tuyau qui nous alimente en eau. Et pourquoi est-ce qu'il y a autant d'arbres alors que quand on se promène, on a l'impression qu'il y a des maisons partout ? Et j'explique, bah, c'est-à-dire que derrière les maisons, il y a des arbres et l'île-Dieu, en fait, elle est un petit peu entre les deux. Il y a un peu plus de maisons que ce qu'on voit du haut du phare, mais il y a plus d'arbres que ce qu'on voit quand on se promène. Voilà, ça c'est des questions qui reviennent souvent. Après, sur les phares, parfois j'ai des questions un peu plus précises sur le fonctionnement des lentilles de Fresnel, mais c'est un peu plus rare, on va dire.
Et là, on est vraiment sur le site du phare. Il y a deux maisons. C'est des maisons de particuliers ou c'est des maisons de gardiennage ?
C'était les maisons des gardiens. Donc en fait, il y en a quatre, mais là, on ne voit pas les deux autres, elles sont cachées derrière. Donc il y a deux maisons qui datent des années 50-60 avec des volets blancs qui sont assez grandes. Et il y en a deux autres beaucoup plus anciennes qui doivent dater de la fin du 19e siècle avec des volets verts. Et il y avait quatre gardiens dans ce phare. En effet, c'est un phare d'atterrissage de première catégorie, donc un phare important, quoi. Ça veut dire qu'il y avait deux équipes de deux gardiens et qu'ils habitaient tous sur le site avec leur famille.
Merci Pauline de cette visite, à très bientôt.
À bientôt.
On se retrouve dès lundi dans Je vous dis pas, et comme chaque lundi, c'est spécial musique. En interview, les garçons de passage en compagnie de Nico. Ils seront au festival Les Givrés le 24 septembre prochain. C'est à découvrir lundi dans Je vous dis pas. Bye bye.
Je vous dis pas, votre magazine d'information locale, du lundi au vendredi à 12h15 et 19h15 sur Neptune FM.